Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'envole sans plus attendre vers l'Amérique de Joe Biden. Dernier jour à la Maison-Blanche pour Donald Trump, qui cédera la place le 20 janvier à son ancien rival démocrate. Joe Biden prend la tête d'un pays fracturé, éreinté par l'épidémie de coronavirus et la crise économique qui l'accompagne. Depuis 3 semaines, les États-Unis comptent plus de 3000 morts de la Covid chaque jour et près de 8 millions d'Américains sont tombés sous le seuil de pauvreté depuis le mois de juin. Les défis qui attendent Joe Biden sont immenses et nous allons les passer au crible cette semaine en compagnie de 3 grands économistes. Installé aux États-Unis, Pierre-André Chiappori, Gabriel Zucman et Thomas Philippon. Il est 14h passé de 1 minute sur France Culture et si vous tendez l'oreille, vous percevrez l'écho d'une nouvelle Amérique. Pour parler de l'économie selon Joe Biden, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui à distance Pierre-André Chiappori, économiste, professeur à l'Université de Columbia à New York, membre de l'Académie des sciences morales et politiques et de l'American Academy of Arts and Sciences. En fin d'émission, Xavier Martinet sera parmi nous pour nous donner des nouvelles de l'écho.
Vous savez, dans la bataille pour préserver l'âme de l'Amérique, la démocratie l'a emportée. Nous, le peuple, avons voté. La foi en nos institutions a tenu. L'intégrité de nos élections a été préservée. Maintenant, il est temps de tourner la page, comme nous l'avons fait tout au long de notre histoire, de nous rassembler, de guérir. Comme je l'ai dit au cours de cette campagne, je serai le président de tous les Américains.
Le président élu Joe Biden le 14 décembre dernier, après la confirmation de sa victoire par le Collège électoral américain. Bonjour Pierre-André Chiappori.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, ça fait près de 30 ans que vous vivez aux États-Unis. Vous avez fait vos études d'économie en France. Et puis, vous avez rejoint l'université de Chicago. Vous avez travaillé avec Gary Becker, grand économiste de la famille qui a développé la notion de capital humain. On va y revenir. Mais d'abord, comment vont les États-Unis, Pierre-André Chiappori?
Alors, évidemment, les États-Unis vont mal parce qu'on est au milieu d'une pandémie ou d'une deuxième vague pandémique. Le nombre de morts officiels est aux alentours de 350 000. C'est probablement une sous-estimation quand on regarde l'excès de mortalité, c'est-à-dire la mortalité sur les mois par mois par rapport à la moyenne des années précédentes. On est probablement aux alentours de 400 000 morts, voire au-delà. Et on n'a pas fini. Il y a des États comme la Californie, dans lequel, notamment le sud de la Californie, les hôpitaux fonctionnent à plein, les services d'urgence sont saturés. Les prévisions laissent envisager un total de 600 000 morts, ce qui est absolument énorme. Une épidémie de grippe fait 20 000 morts par an en temps normal et les pires font 60 000 morts.
Et alors, comment expliquer que cette crise sanitaire soit d'une telle ampleur aux États-Unis? C'est le pays qui compte le plus de cas au monde, Pierre-André Chiappori.
Oui, alors, bon, écoutez, c'est un secret pour personne. Il y a eu une désorganisation générale de la réponse au niveau fédéral. En particulier avec une attitude, alors qui est une attitude classique de l'administration Trump, et je dirais assez souvent des républicains, qui consiste à être très sceptique, y compris vis-à-vis des évidences scientifiques. Et donc, l'administration a clairement minimisé le danger. Certains États s'en sentiraient beaucoup mieux que d'autres. En particulier, l'État de New York a été très brutalement frappé en début de pandémie, mais ensuite, il s'est porté beaucoup mieux. Mais au total, l'épidémie est loin d'être jugulée. La lueur d'espoir, évidemment, c'est les vaccins. Vous savez que les États-Unis ont commencé à vacciner depuis à peu près une semaine.
Ils ont commencé à vacciner, ils sont encore loin des promesses qui avaient été faites par Donald Trump à ce sujet. Mais alors, du côté de l'économie, Pierre-André Chiappori, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment, dans quel état finalement Donald Trump laisse-t-il les États-Unis à Joe Biden sur le plan économique?
Alors, du point de vue de l'économie, c'est une catastrophe énorme. Bon, je vous donne quelques chiffres. Le PNB, sur un espace de 4 mois, c'est-à-dire entre, disons, février et juin, a baissé de 10%. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis presque un siècle, enfin depuis les récessions des années 30. Pour vous donner une idée, la récession de 2008, qu'on appelle the Great Recession, donc qui a marqué les esprits, entre le sommet juste avant la récession et le fond de la récession, la baisse de PNB avait été de 4%. Et ça avait pris un an et demi. Là, on s'est effondré de 10% en l'espace de quelques semaines, enfin de 2 ou 3 mois. On est remonté, mais on n'est pas remonté tout à fait. Donc on est remonté d'environ 7%. On reste quand même 3% au-dessous d'avant le début de la pandémie. Et puis, comme je le disais, c'est pas fini. Et les conséquences sur l'emploi ont été terribles. Terrible. Enfin, c'est des choses qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, qu'on n'avait pas vues, en fait, depuis, comme je le disais, depuis la crise des années 30.
L'une des grandes questions qui continue, semble-t-il, à diviser les économistes, Pierre-André Caporis, c'est celle-ci. Est-ce que le bilan économique de Donald Trump aurait été bon, aurait pu être jugé bon, s'il n'y avait pas eu la pandémie ?
Ah, d'abord, il est probable, en tout cas possible, que Donald Trump eût été réélu sans la pandémie. J'avais parié que Donald Trump ne serait pas réélu, mais en fait, j'ai probablement été très optimiste et mes paris ont été sauvés par la pandémie. Alors, si on regarde, si on fait le bilan économique des années Trump, en fait, la contribution de Trump est très inférieure à ce qu'on a bien voulu en dire. Il est vrai que l'économie américaine sous Trump a cru et a cru de façon régulière. Mais cela étant, si vous regardez la courbe de PNB depuis la sortie de crise de 2009-2010 jusqu'à le début de 2020, c'est-à-dire le début de la pandémie, vous avez une ligne parfaitement régulière. La croissance est régulière, la croissance du nombre d'emplois est régulière, l'investissement est régulier. Donc à aucun moment on a eu une inflexion des courbes qui serait due à la politique de Donald Trump. Néanmoins, la règle générale aux États-Unis, c'est qu'un président sortant est réélu, sauf si la situation économique est extrêmement dégradée. Donald Trump a été achevé, je dirais, par la pandémie, et notamment par sa très mauvaise performance sur la pandémie. Je pense que son image de leader a été gravement entamée par le chaos qui a caractérisé la réponse de l'administration américaine.
Vous avez parlé des conséquences de la pandémie sur l'emploi aux États-Unis. 12 millions de personnes auraient perdu leur emploi à cause du coronavirus.
Je suis ici depuis 6 heures du matin pour obtenir un formulaire de chômage. J'étouffe. Je dois payer la voiture, je dois payer mon téléphone. Comment vais-je payer tout ça ? Comme vous pouvez le voir, la file de voitures fait le tour du pâté de maison. Cela montre à quel point nous avons des besoins dans notre communauté et probablement dans tout l'État, car beaucoup de personnes n'ont plus de travail depuis des semaines maintenant. Tout va mal. J'ai perdu mon emploi et mes enfants sont à la maison, à cause de l'école qui est fermée. Ils pourvoient aux besoins des familles, et c'est ce dont nous avons besoin en ce moment, en pleine épidémie. Des vêtements, de la literie, des meubles, des choses comme ça. C'est une bonne organisation pour les gens qui en ont besoin.
Voilà des témoignages recueillis au mois d'avril par LCI et France 24. Ce sont donc des millions de personnes qui ont perdu leur emploi dans le pays et qui, pour certains, ne sont pas prêts de retrouver un travail, Pierre-André Caporis, notamment parce que la fermeture des écoles empêche de nombreuses personnes, notamment de nombreuses femmes, de travailler aussi.
Oui, alors, la perte d'emploi, ça a été quelque chose d'absolument spectaculaire. En l'espace de 3 ou 4 mois, l'économie américaine a perdu 20 millions d'emplois. Par référence, la crise de 2008, le total des pertes d'emplois avait été de 10 millions et ça avait pris un an et demi. Là, on parle encore une fois de quelques semaines. Alors, cela étant, ça a rebondi. Et depuis la fin avril, début mai, qui a été le moment le plus dur, une dizaine de millions d'emplois ont été regagnés. Mais néanmoins, on reste à 10 millions d'emplois au-dessous de la situation pré-pandémique. Et encore une fois, on n'est pas au bout de nos peines. En fait, Fauci, qui est le spécialiste qui gère la pandémie pour la Maison Blanche, a annoncé qu'il était parfaitement possible qu'on ait à nouveau une vague pandémique à l'issue des fêtes. Donc, on est loin d'avoir d'être arrivé au bout du tunnel. Cela étant, l'administration là, il faut le reconnaître, a très bien réagi du point de vue économique. Il y a eu cette mesure, ce paquet de mesures très fortes qui a été passé au printemps. Et ça, ça a beaucoup aidé l'économie. En particulier, ça a évité que cette espèce de choc énorme se traduisent par une espèce de spirale keynésienne avec une augmentation incontrôlée du chômage.
2200 milliards de dollars, ça c'était le premier plan de relance au printemps. Et puis il y en a eu un second plan de relance qui a été adopté le 20 décembre par le Congrès et ratifié dimanche par Donald Trump, près de 900 milliards de dollars. Est-ce que c'est un plan qui, selon vous, est à la hauteur des enjeux, Pierre-André Capori?
D'abord, c'est un plan d'une ampleur sans précédent, hein, de 2 milliards, plus de 2 milliards de dollars, c'est 10% du PNB, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. En plus, ça, c'est l'intervention directe du Trésor, et comme vous le savez, ça a pris un certain nombre de formes. Il y a eu une aide aux particuliers, il y a eu un chèque qui a été donné aux particuliers de 2 200 $ par personne, mais il y a eu surtout une extension des allocations chômage, qui a joué un rôle extrêmement important dans l'attitude des gens. En plus, il y a eu des prêts aux entreprises, etc. Mais ça, c'est l'intervention juste du Trésor. En plus, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, est intervenue de façon absolument massive, avec des montants à peu près comparables, hein, plus de 2000 milliards, sous forme de prêts, sous forme d'achats directs, y compris des innovations qu'on avait, auxquelles on n'était pas habitué, en particulier des achats directement d'obligations depuis les entreprises. On pourra peut-être reparler de cet aspect. Alors, est-ce que c'est à la hauteur? Ben oui, en tout cas, ça a évité le pire, c'est-à-dire que la crise est dure, mais ça aurait pu être pire. Ce qui est caractéristique de cette crise, c'est qu'elle ne ressemble absolument pas aux crises précédentes. Les crises précédentes, c'était des crises endogènes dans le jargon des économiques, c'est-à-dire des crises qui étaient créées par le fonctionnement même de l'économie. Si vous prenez 2008, il y a une bulle immobilière et puis il y a une dépendance excessive du système financier sur la bulle. Quand la bulle explose, on a une crise financière relativement classique. Et on a une crise, ça se traduit par une crise keynésienne avec une baisse de la demande, etc. Là, c'est complètement différent. Là, c'est une catastrophe naturelle. Là, c'est une crise qui affecte, c'est complètement exogène, ça vient de nulle part. Ça affecte à la fois l'offre et la demande. Comme dans le détail, ça affecte les services et pas les biens durables. La demande baisse surtout en haut de la distribution des revenus, etc. Donc, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Et cette réponse, c'est-à-dire la première réponse au printemps, manifestement nous a permis d'arriver pas trop mal jusqu'à la fin de l'année, en particulier la croissance du nombre d'emplois depuis cette période. Les 10 millions qu'on a regagnés sont dus à cette relance. Alors maintenant, la deuxième relance, est-ce qu'elle est suffisante? Alors, pour les républicains, elle est excessive, pour les démocrates, elle est insuffisante. Disons que, comme n'importe quel compromis, le fait qu'il y ait des insatisfaits des deux côtés, c'est probablement une bonne nouvelle. Alors, en tout cas, elle est massive.
Elle est massive, elle est diminuée de moitié, un peu moins de la moitié, puisque c'est 900 milliards de dollars contre 2200 milliards au printemps. Mais c'est vrai que quand on regarde les mesures qui ont été prises, Pierre-André Capori, les 600 dollars accordés aux chômeurs, par exemple, dans ce deuxième plan de relance, les crédits accordés aux entreprises qui acceptent de garder leur travailleurs, la mise en place d'un quasi-revenu universel, on se dit que les États-Unis sont capables, en temps de crise, de mettre le libéralisme de côté. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui ?
Disons que c'est du libéralisme bien compris. Je pense que même Friedman n'aurait pas été choqué par le fait qu'il y ait une intervention publique massive dans une situation comme celle-là, dans une situation de catastrophe naturelle. De la même manière que quand il y a un tremblement de terre ou des inondations dues à un cyclone en Floride ou à la Nouvelle-Orléans, et on trouve normal que le gouvernement intervienne de façon massive, ben ça c'est un peu le même phénomène, mais à une échelle 10 ou 20 fois plus grande. Donc, alors, les 600, ce qui est important sur le deuxième volet de la relance, c'est qu'il y a les 600 dollars par Américain qui sont payés une fois pour toutes, mais surtout il y a une extension des allocations chômage. Et c'était ça l'un des problèmes, c'est que l'extension des allocations chômage qui avait été votée au printemps venait de se terminer. Et donc on risquait d'avoir des gens, des chômeurs qui se retrouvent sans moyens. Donc là, on est reparti. Alors on peut espérer que avec la vaccination, d'ici quelques mois, les choses recommence, que l'économie américaine retrouve une certaine croissance.
Oui, les chômeurs reçoivent 300 dollars, hein, non pas 600 effectivement dans ce deuxième plan de relance. Mais alors, selon la Réserve fédérale, le taux de chômage devrait s'élever à 6,7% cette année. Mais ce que vous nous expliquez, Pierre-André Capori, c'est que finalement cet indicateur, le taux de chômage, il est trompeur aux États-Unis.
Alors d'abord, oui, je me méfie en général des taux de chômage parce que quand les gens perdent leur emploi, ils peuvent soit s'inscrire au chômage, soit passer en inactivité et la frontière entre les deux est très floue. Donc le chiffre de, par exemple, si vous prenez toute la présidence de Trump, on a eu un taux de chômage très bas. Néanmoins, on a eu une création d'emplois et qui est venu prendre ces emplois, c'était en partie des chômeurs, mais pour une large partie aussi des gens qui étaient considérés comme inactifs du point de vue des statistiques.
Et qui ne s'inscrivent pas au chômage parce que les allocations sont aussi particulièrement basses aux États-Unis, contrairement à la France ?
Oui, vous avez aussi des phénomènes de chômeurs découragés, c'est-à-dire qui ont perdu espoir, qui ne font pas l'effort de chercher pour toutes sortes de raisons. Mais si un emploi devient disponible, ils peuvent le prendre. Alors c'est vrai partout, hein, c'est vrai aussi en France. Vous avez les taux de chômage. En général, quand on crée 10 emplois, ça diminue pas le chômage de 10 parce qu'il y a une partie des emplois qui sont pris par des gens qui n'étaient pas chômeurs, qui étaient inactifs. Donc, en général, les économistes préfèrent regarder le nombre d'emplois. Alors, en nombre d'emplois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a quand même, en gros, 10 millions d'emplois de moins qu'avant la crise. Donc, on est loin d'être sortis de l'auberge.
Ces aides prévues par les différents plans de relance étaient d'autant plus nécessaires qu'aux États-Unis, perdre son travail, c'est bien souvent perdre son assurance santé.
Je m'appelle James et je vis avec le cancer depuis 5 ans. Je suis photographe professionnel. Lundi 16 mars, nous avons reçu un email qui disait « Bonjour, nous allons devoir licencier tout le monde jusqu'à nouvel ordre ». C'est devenu un gros problème, car j'avais une assurance santé et désormais, je n'en ai plus. Cela m'a vraiment secoué pendant un moment. Immédiatement, vous vous dites, si je n'ai pas d'assurance santé, qu'est-ce que je fais ? Et cela devient effrayant. Rien qu'un examen au scanner, cela coûte 9 000 $. Et pour la chimiothérapie, la dernière fois que j'ai regardé, cela coûtait 20 000 $ pour une seule séance. En 2016, quand j'ai commencé ces traitements, j'ai vu une fois le montant de la facture qui s'élevait à 200 000 $ rien que pour cette année-là. Nous avons atteint notre objectif initial qui s'élevait à 25 000 $. On l'a rehaussé à 40 000 $ pour couvrir les frais supplémentaires. Je suis bouleversé, vraiment. Cela m'a ôté un poids du cœur et de l'esprit. Si je ne peux recevoir de soins médicaux à cause d'un problème d'argent, cela devient effrayant. Et d'être dans cette position, cela me brise le cœur. Cela m'a submergé d'émotions de voir que les gens donnaient. Si nous n'arrivons pas à récolter la somme intégrale, je ne sais pas. Récolter cet argent, c'est ce qui m'a fait vivre pour l'instant.
Voilà le témoignage de James Pennyman, un Américain âgé de 49 ans qui se bat depuis 5 ans contre un cancer. Témoignage recueilli en avril par nos confrères de France Info. Aux États-Unis, comme on vient de l'entendre ici, la plupart des assurances santé sont encore liées à l'emploi. Pierre-André Capori.
Alors, oui et non. Le système américain est très complexe. D'abord, une chose qu'on oublie souvent, c'est que plus du tiers des assurances santé sont des assurances santé publiques fournies soit par l'État fédéral, soit par les différents États. En particulier, toutes les personnes âgées de 65 ans et au-delà sont couvertes par un système fédéral qui s'appelle Medicare. Et ça représente en gros, disons, 60-70 millions de personnes. Par ailleurs, les gens en bas de l'échelle des revenus, les gens les plus pauvres, sont couverts par un autre système qui s'appelle Medicaid, qui couvre à peu près autant de monde, disons 70 millions de personnes, c'est un système qui est géré au niveau des États, mais qui est financé par les États et aussi par le gouvernement fédéral. Donc il y a un bon tiers qui est un système public, je dirais, à l'européenne. Pour le reste, effectivement, c'est des assurances privées, mais le paysage a beaucoup changé avec la réforme Obama. C'est-à-dire, le témoignage qu'on a entendu, qui est vraiment bouleversant, ça aurait été un témoignage beaucoup plus fréquent avant la réforme de l'assurance maladie par Obama, celle-là même d'ailleurs que Trump a essayé de supprimer. Parce que, en un mot, hein, alors il est vrai que pour beaucoup d'Américains, L'assurance santé est liée à leur emploi. Donc, elle est directement fournie par l'employeur. En fait, d'ailleurs, une des choses qu'a introduite Obamacare, c'est que les gros employeurs ont l'obligation de fournir une assurance santé, faute de quoi ils payent une pénalité. Mais l'innovation majeure de la réforme Obama, ça a été de réglementer le marché de l'assurance privée. Alors ça, c'est le marché qui permet à tout un chacun d'aller voir un assureur et d'acheter une assurance santé. Avant la réforme Obama, James, je crois que c'était le prénom de la personne que vous avez interviewée, n'aurait aucune chance. Il n'aurait aucune chance parce qu'il serait allé voir un assureur et l'assureur lui aurait dit « Ah mais je suis désolé, vous avez une maladie, une condition préexistante, une maladie qui coûte énormément d'argent, donc la prime d'assurance qu'on va vous charger correspond, en logique actuarielle, au coût futur de vos traitements. » Et donc le prix aurait été insupportable pour lui. Maintenant, c'est plus le cas. Depuis la réforme d'Obama, les assurances privées, les assurances prises au niveau individuel, ne peuvent pas prendre en compte, ni pour l'acceptation, ni pour la tarification, les conditions préexistantes. Et c'est ça qui a fait l'objet de débats.
Mais alors, comme vous l'avez dit, cette réforme, Pierre-André Iapori, cette réforme de l'Obamacare de 2010, cette assurance santé obligatoire pour les Américains a été quelque peu mise à mal par Donald Trump.
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'au moment où elle a été introduite, les Américains étaient largement défavorables. Maintenant, les Américains sont en majorité favorables. Obamacare est très populaire. L'immense avantage, c'est cette réglementation du marché de l'assurance individuelle qui permet à des gens comme James d'aller... Donc James est un peu trop désespéré. Il peut essayer d'acheter une assurance sur les marchés et la prime qu'il paiera ne sera pas proportionnelle à ses coûts, ce qui la rendrait totalement hors d'atteinte. Alors, cela étant, il est clair que ça pose un certain nombre de problèmes. L'un des risques que courait Obamacare, j'avais un peu suivi la genèse d'Obamacare, c'est assez intéressant parce que c'est une réforme qui a beaucoup, beaucoup utilisé les travaux théoriques des économistes, notamment sur les questions de ce que dans le jargon on appelle l'antisélection. Le risque d'une réforme de ce genre-là, c'est que si le coût de l'assurance augmente parce que les gens bien portants doivent de facto subventionner les gens malades, vu qu'on ne fait pas de différence tarifaire, le risque c'est que les gens bien portants refusent de s'assurer. Et c'est pour ça que la réforme Obama a introduit une obligation.
Avec une amende. Et c'est bien cela qui a été détricoté par Donald Trump, Pierre-André Iapori. Il n'y a plus d'amende infligée aux particuliers en cas de non-inscription à une assurance maladie.
Vous avez exactement raison. L'amende a été supprimée. Néanmoins, on aurait pu craindre que du coup les gens quittent massivement, ça ne s'est pas produit. Donc malgré l'absence d'amende, pour le moment, il n'y a pas eu de problème. Il y a encore, devant les tribunaux américains et tôt ou tard devant la Cour suprême, une action en justice contre le système Obama, qui a été initié notamment par l'État du Texas, utilisant un argument juridique un peu compliqué, pour ne pas dire un peu pervers, selon lequel... si l'obligation d'assurance était une partie et indispensable de la loi, et si l'obligation d'assurance de facto n'existe plus, parce que même si la loi n'a pas été abrogée, le montant a été réduit à zéro par Trump, donc de facto, cette obligation d'assurance n'existe pas, et comme c'est une partie essentielle de la loi elle-même doit cesser de s'appliquer. Ça va passer devant la Cour suprême, je ne sais pas si ça passe, mais même Obamacare n'est pas complètement... au bout de ses peines. Enfin, Obamacare, je pense qu'il est juste de dire que Obamacare a beaucoup réduit le coût d'un phénomène comme ceci pour les Américains. Imaginez ce qu'aurait été une récession de cette force-là si on n'avait pas eu cette réforme.
Alors, je vous propose justement d'écouter Barack Obama se féliciter que sa réforme soit passée.
Today, after almost a century of trying. Today, after over a year of debate, today, after all the votes have been tallied, health insurance reform becomes law in the United States of America.
Aujourd'hui, après un siècle de tentatives, un an de débats et après le décompte de tous les votes, la réforme de l'assurance santé est devenue une loi aux États-Unis. Voilà ce que déclare Barack Obama après le vote de l'Obamacare le 23 mars 2010. Il est aux côtés de son vice-président Joe Biden. Alors, cette réforme de l'Obamacare a eu une importance qu'il faut souligner dans cette pandémie. Mais je voudrais revenir avec vous, Pierre-André Capori, sur ce couplage aux États-Unis de l'assurance santé et du travail. D'où vient ce couplage, ce lien? Est-ce qu'il faut y voir une influence de cette réforme mise en œuvre sous Bill Clinton en 1996, la welfare réforme qui avait conditionné les aides familiales pour les ménages à bas revenus au fait d'occuper un emploi ou au moins d'en rechercher un activement?
Vous savez, le fait que l'assurance maladie soit liée au travail, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux États-Unis, qui existe partout. La tradition française était exactement celle-là. Maintenant, nous sommes sous un système universel, au sens où même si vous perdez votre travail, vous êtes de toute façon couvert par la sécurité sociale.
Mais il y a un vrai attachement des Américains au fait que cette assurance santé dépende du travail ?
Il y a un attachement au fait que les gens puissent choisir leur assurance, qui est un système privé, que les gens puissent choisir leur assurance. Si vous regardez les réactions un peu instinctives de beaucoup d'Américains au moment de l'introduction d'Obamacare, la réaction, ça a été de dire « mais pour le moment, moi qui ai un travail stable et qui ai une assurance qui me convient parfaitement, je ne veux surtout pas qu'on vienne bouleverser tout ça et qu'on vienne mettre sans dessus dessous un système qui marche bien ». Alors évidemment, dire que le système marche bien, c'est un peu... Il faut le dire assez vite, parce que si vous regardez la situation de la santé aux États-Unis, qui est un des paradoxes de ce pays, d'une part, les États-Unis dépensent plus pour leur santé que n'importe quel autre pays développé. Les dépenses de santé aux États-Unis, c'est 18% du PNB, et le deuxième pays développé, ça doit être la Suisse, et ça doit être aux alentours de 12%. La France doit être aux alentours de 11-12, l'Allemagne aussi. Donc les États-Unis dépensent beaucoup plus que n'importe qui d'autre sur la santé. Et quand on regarde les résultats, l'espérance de vie aux États-Unis est très inférieure, elle est de 4 ans inférieure à celle de la France, elle doit être de 5 ou 6 ans inférieure à celle du Japon. Donc on a un système dans lequel on dépense énormément d'argent pour des résultats qui, finalement, ne sont pas très spectaculaires.
Et alors que compte faire Joe Biden? Il n'a pas prévu de rendre obligatoire la couverture santé, mais il a promis d'élargir le système de l'Obamacare, d'en augmenter les subventions, sauf que pour cela, évidemment, il a besoin du Sénat. Or, celui-ci, Pierre-André Capori, devrait a priori rester républicain. Deux sièges sont encore en lice en Géorgie et l'élection est prévue le 5 janvier, mais les chances de démocrates de l'emporter sont assez faibles.
Vous avez raison. Alors, Biden, en fait, si vous regardez la campagne démocrate, il y a un certain nombre des candidats qui étaient sur la gauche, l'aile gauche du Parti démocrate, qui avait fait campagne sur ce qu'ils appelaient Medicare for All, c'est-à-dire d'étendre le système public à l'ensemble de la population, c'est-à-dire de facto de créer un système, de remplacer le système actuel par un système à la française ou à l'allemande. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas passé et qui, à mon avis, n'avait aucune chance de passer. J'avais eu l'occasion de discuter beaucoup avec le regretté Alan Krueger, qui était mon collègue et ami, qui était professeur à Princeton, mais qui avait été l'un des principaux conseillers d'Obama au moment de la réforme de la santé. Et la première chose qu'il m'avait dit, c'est « tu ne te rends pas compte, la taille du secteur, on parle d'un secteur qui représente plusieurs milliers de milliards, aux États-Unis, on ne peut pas nationaliser un secteur de cette taille-là ». Ce qu'a choisi Biden, ce qui était manifestement la bonne option, au moins politiquement, ça a été de dire on va conserver le système tel quel, Obamacare, notamment les gens auront le droit de choisir leur propre assurance privée de la façon qu'ils veulent, mais on va probablement ouvrir une possibilité supplémentaire qui est dans la liste des choix qui s'offriront à l'individu qui veut s'inscrire, il y aura un autre choix qui serait un choix public, qui serait un choix géré par l'administration et qui ressemblerait, et pour rassurer les Américains, on leur dit, mais vous savez, des systèmes de santé gérés par l'administration, ça existe, c'est Medicare et finalement ça marche pas mal. Donc Biden est allé dans cette... Et ça a été d'une grande lucidité, je dirais, de Biden, parce que s'il avait pris une position un peu extrémiste du genre système de santé pour tous, probablement il aurait eu beaucoup de mal à passer. De façon intéressante, d'ailleurs, Kamala Harris avait soutenu cette proposition du Medicare for All au cours de la campagne des primaires démocrates, et maintenant elle est complètement sur la même ligne que Joe Biden.
Avec le coronavirus, Pierre-André Capori, les inégalités aux États-Unis se sont encore creusées davantage. Comment Joe Biden peut-il réparer les fractures américaines? On en parle dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho? Tiffaine de Rocking. I'm not your friend.
What the hell are you talking about? Get my pretty name out of your mouth. We are not the same with or without. Don't talk about me like how you might know how I feel. Top of the world, but your world isn't real. It wasn't ideal. So go have fun. I really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. And you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man. I think therefore I am. I'm sorry. I don't think I caught your name. I'm sorry.
Therefore I Am, le dernier titre de Billie Eilish, qui avait appelé ses 68 millions d'abonnés sur Instagram à voter pour Joe Biden. Nous poursuivons notre discussion sur les chantiers économiques du nouveau président américain sur France Culture. Dans Entendez-vous l'écho, nous sommes toujours en compagnie de l'économiste Pierre-André Capori. Alors la société américaine n'a jamais été aussi divisée, voilà ce que l'on a entendu au cours de cette élection. Il faut dire qu'avec la crise du coronavirus, une partie de la population américaine s'est enrichie, notamment grâce à la hausse de la bourse, des prix de l'immobilier, contre une autre, s'est elle considérablement appauvrie, Pierre-André Capori?
Oui, alors la Réserve fédérale a injecté des quantités massives d'argent dans l'économie et de façon pas très surprenante, ça s'est traduit par une augmentation de la valeur des actifs financiers et dans une certaine mesure de l'immobilier. Donc il y a eu un enrichissement et c'est une tendance lourde des États-Unis. Ce qui est frappant, c'est que l'augmentation de l'inégalité, c'est quelque chose qui commence, disons, dans les années 80. Et ce qu'on voit maintenant, c'est une situation de division et de fracture qui a des origines assez lointaines, même si elles sont très exacerbées par la crise actuelle. Alors, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a un aspect dont je ne vais pas parler parce que vous allez recevoir demain l'un des grands spécialistes du sujet, qui est l'importance de la richesse financière et en particulier l'augmentation de la richesse tout en haut de la distribution des revenus, disons les 1% les plus riches. Oui, Gabriel est l'un des grands spécialistes mondiaux de cette question-là. Mais ce dont je voudrais parler, qui est tout à fait complémentaire, c'est l'espèce de césure qui a eu lieu dans la population américaine, dans les 99% restants ou dans les 95% restants. Alors, une chose qui est très frappante, c'est que l'accroissement de l'inégalité est un phénomène absolument massif dont on ne percevait pas bien l'ampleur. Et maintenant, on a un certain nombre d'études qui nous montrent l'ampleur du phénomène. Je voudrais juste citer une étude qui m'a particulièrement frappé quand elle est sortie il y a quelques années. Pour mesurer l'inégalité, en général, on mesure l'inégalité de façon instantanée. On regarde la distribution des revenus en photographie à un moment donné de l'économie. Ce qui n'est pas très satisfaisant pour des économistes, parce qu'une part de ces revenus ont une composante aléatoire. Il y a des gens qui ont une bonne année, qui l'année suivante en auront une mauvaise. Donc il y a un aspect fluctuation temporaire. Et par ailleurs, il y a des profils de carrière. Imaginez une économie dans laquelle tout le monde parte très bas, quand tout le monde est exactement dans une carrière qui commence très bas quand on est jeune et qui finit très haut quand on est âgé. En un sens, ça serait une économie parfaitement égalitaire parce que tout le monde aurait la même carrière. Mais si vous regardez en coupe transversale à un moment donné, vous aurez des riches et des pauvres parce que vous aurez des jeunes et des vieux. Donc la façon dont on voudrait appréhender l'économie, c'est utiliser ce que les économistes appellent le revenu permanent, c'est-à-dire la totalité des revenus qu'on va avoir sur sa vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aux États-Unis parce qu'il y a une base de données extraordinaire qui est un panel qui s'appelle PSID, Panel Study of Income Dynamics, dans lequel on suit depuis plus de 50 ans plusieurs milliers, en fait maintenant plusieurs dizaines de milliers de personnes, et on les suit tout au long de leur carrière, on suit leurs enfants, etc. On peut se poser des questions de ce type-là. Regarde, prenons des individus nés, disons, en 45 et qui entrent sur le marché de travail dans les années 60. Regardons cette cohorte. Et puis regardons la cohorte suivante, les gens 20 ans plus tard, donc les gens qui sont nés en 65 et qui entrent sur le marché du travail dans les années 80. En moyenne, est-ce que la jeune génération gagne plus que la génération ancienne? Et si vous regardez dans l'histoire des États-Unis depuis le début du siècle, la réponse a pratiquement toujours été oui pour 80% des gens. Sur les deux générations dont je parle, bien que le PNB se soit accru de façon spectaculaire, la réponse n'est positive, c'est-à-dire la génération jeune ne gagne plus que la génération vieille, que pour le haut de la distribution, que pour les 25% du haut de la distribution. Pour le reste, pour trois quarts de la distribution, elle a stagné, voire décru.
Et ce qui explique cela, Pierre-André Capori, c'est la notion de l'éducation qu'il faut introduire ici, qui est importante, et la notion surtout de capital humain qui a été développée par l'économiste Gary Becker, avec lequel vous avez travaillé. En quoi cette notion de capital humain est importante pour comprendre ces fractures américaines dont on parle ici?
Alors, vous avez raison, parce que ce qui est difficile d'expliquer, et ce qui en un sens est le moins acceptable, c'est le fait qu'au bas de la distribution des revenus, on a eu une stagnation qui n'est pas une stagnation temporaire, c'est pas une récession, c'est une stagnation de long terme sur plusieurs décennies. Alors, comment expliquer ça? Alors, dans le cas des États-Unis, vous l'avez dit, la notion fondamentale, je crois, c'est la notion de capital humain. Qu'est-ce que c'est que le capital humain? Alors, c'est l'ensemble des connaissances, disposition, talent, qui permettent à un individu d'être particulièrement productif sur le marché du travail. Pourquoi ce terme capital humain? Ben, c'est l'idée de Becker, c'était de dire c'est un capital au sens où c'est le résultat d'un investissement et donc d'une décision d'investissement. Lorsque, au lieu d'entrer sur le marché du travail à l'âge de 20 ans et de gagner tout de suite un revenu, vous choisissez de faire 4 ans d'études de plus, vous renoncez à un certain revenu, mais d'un autre côté, l'éducation que vous avez vous permettra d'avoir un revenu futur plus élevé. Ben c'est exactement une action d'investissement. On renonce à un revenu actuel pour avoir un revenu futur plus élevé. La façon dont nous, économistes, on mesure ça, qui est assez imparfaite, mais qui est quand même assez parlante, c'est ce que les Américains appellent college premium. Un rappel pour les auditeurs, ce que les Américains appellent college, c'est un peu perturbant, c'est les 4 premières années d'économie, d'université. Vous savez que aux États-Unis, il y a bac plus 4, il y a un diplôme qu'on appelle un BA, un bachelor, et ces 4 années s'appellent college, et ensuite on peut faire des études supérieures. Alors, une façon dont on peut mesurer ça, c'est de regarder le salaire de quelqu'un qui a cette formation bac plus 4 par rapport au salaire de quelqu'un qui a juste le bac. Ça pose des tas de problèmes parce qu'il y a de la sélection, c'est pas les mêmes gens, etc. Mais laissons ça de côté. Une chose sur laquelle tous les économistes sont d'accord, c'est que ce rapport entre la personne qui a une formation universitaire et la personne qui n'en a pas a totalement explosé entre les années, disons, 1980 et maintenant. La rémunération du capital humain a complètement explosé. C'est un phénomène proprement américain, d'ailleurs. Les choses sont très différentes, par exemple, en France. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a la césure qu'on voit aux États-Unis, c'est assez largement une césure entre les gens éduqués et les gens qui ne sont pas. Les gens qui ont un stock de capital humain et les gens qui, au contraire, sont restés à un niveau d'éducation beaucoup plus bas. Alors, pourquoi cette explosion?
Il faut voir le lien, oui, avec le marché du travail, puisque ce que l'on a constaté ces dernières années, c'est que le marché du travail s'est polarisé entre des emplois très qualifiés d'un côté et des jobs peu ou pas qualifiés de l'autre. Il faut mettre ces deux éléments en relation, Pierre-André Capori.
Ben oui, vous savez, moi je suis un économiste, donc je crois à la loi de l'offre et de la demande. Donc, il y a un graphe qui est très parlant, qui est dû à l'économiste David Hauter du MIT. Hauter regarde la totalité des emplois aux États-Unis. Et en fait, comme certains emplois sont à plein de temps, comme certains emplois sont à mi-temps, certains emplois ont des heures supplémentaires, etc., il regarde la totalité des heures travaillées aux États-Unis. Et il pose la question suivante sur la totalité de ces heures, combien sont occupées par des gens qui ont un diplôme Bac plus 4 et au-delà. Et il regarde l'évolution dans le temps. Dans les années 70, c'est un peu moins de 20%. Aujourd'hui, c'est plus de 50%. En fait, ça doit être à 55, voire 60. Donc, il y a eu une extraordinaire demande de la part du secteur productif pour les emplois, pour les qualifications les plus élevées. C'est dû à quoi? C'est dû, d'une part, au progrès technique, notamment à la mécanisation, etc. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle va probablement amplifier le phénomène. D'autre part, au commerce international, parce qu'une bonne partie des emplois non qualifiés ont été exportés. Donc, en fait, au lieu d'avoir des emplois non qualifiés sur le sol américain, ils sont en Chine. Mais toujours est-il qu'il y a cette espèce de décalage et que la césure dont je vous parlais entre le haut de la distribution des revenus qui se porte extrêmement bien et le bas de la distribution des revenus qui stagne, voire qui décline, ça ressemble assez précisément à une césure entre les gens les plus éduqués et les gens qui le sont moins. Et ça a des tas d'aspects, y compris politiques. Alors, si on veut comprendre le phénomène Donald Trump, à mon avis, c'est l'un des endroits où il faut regarder.
Le rêve américain tel qu'il était décrit en France, par exemple, dans les années 70, semble s'éloigner, Pierre-André Capori. Écoutez justement cette archive de l'ORTF du 26 avril 1971 décrivant l'Américain moyen.
Lui, c'est l'Américain moyen. Monsieur Miller est employé de bureau. Comme des millions d'Américains, c'est un banlieusard qui vit à 1h30 de New York. J'estime, dit-il, que ma famille est plus en sécurité, il y a de bonnes écoles pour les enfants, le voisinage est meilleur, la vie est moins chère et je paye moins d'impôts. En 10 ans, le revenu annuel de Monsieur Miller, Américain moyen, s'est pourtant accru de 35% compte tenu de l'inflation. En 10 ans, son niveau de vie s'est complètement transformé. Sa femme et lui ont chacun leur voiture. Et il est propriétaire d'une plus vaste maison qu'il a achetée à crédit et qu'il paiera en 20 ans. Il y a 10 ans, sa femme possédait déjà un réfrigérateur et une machine à laver. Aujourd'hui, elle a en plus la machine à sécher le linge, la machine à laver la vaisselle, et la maison est équipée avec l'air conditionné.
Voilà, l'ascension sociale qui était encore possible dans les décennies qui ont suivi la guerre n'existe plus de la même façon aujourd'hui, Pierre-André Capori.
J'adore cet exemple parce que l'exemple que vous prenez ici, c'est la fin des Trente Glorieuses. Et les Trente Glorieuses, nous les Français, nous les appelons les Trente Glorieuses, mais elles existaient partout, et y compris aux États-Unis. Si vous regardez la courbe du revenu par tête des Américains, il y a deux caractéristiques sur les 30 années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. La première, c'est une croissance tout à fait spectaculaire. Enfin, en l'espace de même pas 30 ans, de 25 ans, le revenu par tête fait plus que doubler. Et il y a assez peu d'exemples dans l'histoire économique du monde d'une croissance de cette vitesse-là. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que les courbes des revenus élevés, des revenus moyens et des revenus bas coïncident exactement. La croissance profite exactement à tout le monde. Et il y a une césure à partir des années 80. La courbe des revenus élevés continue presque à croître, presque à la même vitesse. Mais au-dessous, la courbe des revenus moyens et bas stagne, voire même décroît. Simplement parce que il y a eu cette extraordinaire importance du capital humain qui a commencé à se manifester dans les profils de salaire.
Le creusement des inégalités est aussi lié à la stagnation des salaires. Comment expliquer, Pierre-André Capori, que ceci n'ait pas augmenté ou si peu au cours des dernières décennies?
Alors, il y a plusieurs aspects. Sur le très long terme, Certains salaires ont augmenté, les salaires des gens qualifiés ont augmenté de façon tout à fait spectaculaire. Quand je parlais de l'explosion de la college premium, c'est dû au fait que d'une part les salaires d'en bas ont très peu augmenté, mais d'autre part les salaires d'en haut ont vraiment explosé. Donc certains salaires ont explosé et les salaires des gens qui avaient une formation se sont accrus de façon énorme. Sur la stagnation en bas, donc je pense qu'il y a un aspect vraiment lié à la technologie, au commerce international, qui fait que la demande d'emplois non qualifiés par le secteur productif n'a pas augmenté aussi vite que celle d'emplois pour les emplois qualifiés. Il y a d'autres facteurs, notamment la baisse de la syndicalisation, la baisse de la représentation syndicale. Donc il y a tout un tas de... il y a aussi l'absence de réglementation, la réglementation sur le salaire. Il y a un salaire minimum au niveau fédéral américain, mais qui est assez bas. Donc le salaire minimum n'a certainement pas suivi la même courbe de hausse qu'en France. Ce qui en particulier explique aussi les bons résultats en matière de chômage. Les chômeurs en France sont plutôt des gens non qualifiés sans expérience, alors qu'aux États-Unis, même les gens non qualifiés sans expérience ont un taux de chômage pas désastreux. Au moins, c'était le cas avant le coronavirus. Mais en tout cas, je pense que cette explosion de la valorisation du capital humain explique pour une large part cette espèce de dichotomie, cette espèce de diffraction de l'échelle des salaires. Mmh. C'est pas seulement les revenus. Les États-Unis sont l'un des seuls, peut-être le seul pays riche dont l'espérance de vie a diminué au cours des 10 dernières années. C'est un phénomène quand même extraordinaire. C'est dû à quoi ? D'abord, c'est dû à la population blanche. La mortalité chez les minorités afro-américaines et hispaniques a toujours été et toujours plus élevée que chez les blancs, mais elle a diminué. En revanche, la mortalité de la population blanche a légèrement augmenté. L'espérance de vie a légèrement diminué. Alors, c'est dû à quoi ? Et il y a un livre fabuleux de mes amis Anne Case et Angus Deaton. Je crois qu'il est paru récemment. Et en tout cas, ils avaient fait un certain nombre d'articles. Ils avaient introduit ils avaient été les premiers à montrer cette tendance. Ils avaient introduit la notion de mort de désespoir, death of despair. En fait, si vous regardez les statistiques, dans la tranche d'âge, disons des 30 à 50 ans, vous avez une augmentation très spectaculaire des morts par overdose, par excès d'alcool, par suicide, donc tout ce que Deaton et Case rassemble sous le vocabulaire de mort de désespoir.
On a vu les ravages, notamment de la crise des opiacés.
Alors, la crise des opiacés étant la manifestation la plus visible. Mais si vous regardez qui est victime, ce sont les gens non éduqués. Donc, si vous faites dans le bouquin de Deaton et Case, vous avez des courbes qui vous donnent l'évolution au cours du temps de ces morts par désespoir suivant le niveau de qualification. Et vous apercevez que les gens qui ont un college ou plus, qui ont une éducation universitaire, il n'y a pas de tendance. Ça monte très légèrement, mais c'est à peine perceptible. Pour les blancs qui n'ont pas d'éducation, ça explose. C'est multiplié par 3, par 4, par 5 suivant pour certaines tranches d'âge. C'est pas seulement, si vous voulez, le manque d'éducation se traduit non seulement dans une stagnation des revenus, mais dans une mortalité supérieure, dans du désespoir, dans le sentiment. Et alors, une autre composante du rêve américain, c'est l'idée que même si ma vie est misérable, mes enfants feront mieux que moi. Ça, c'est le mythe. C'est le fait que la triste vie que je mène, c'est le prix à payer pour que la génération future en général, et mes enfants en particulier, vivront une vie meilleure que moi.
Sauf que cette mobilité est de plus en plus bloquée, et en particulier aux États-Unis par rapport aux autres pays développés, Pierre-André Capori.
Exactement. Alors ça, on s'en rend pas compte. Ce rêve, c'est un mythe. Ça peut-être été le cas au début du XXe siècle, ou dans la première moitié du XXe siècle, je suis pas sûr qu'on ait les données pour le savoir. Mais en tout cas, depuis la guerre, c'est pas vrai. Mmh. Depuis la guerre, on s'aperçoit que cette idée n'est valable que pour le haut de la distribution et pas pour le bas de la distribution. En particulier, alors on a des mesures, nous économistes, de cette mobilité sociale. On se pose la question suivante, si je connais le revenu des parents, qu'est-ce que ça m'apprend sur le revenu des enfants, ce qu'on appelle l'élasticité du revenu des enfants au revenu des parents. Donc si il y a un indice qui varie entre 0 et 1, ça voudrait dire une société complètement figée. Si je connais le revenu des parents, je sais absolument tout sur le revenu des enfants, alors que 0, ça serait une société complètement mobile. Je peux savoir, l'information que j'ai sur les parents ne m'apprend rien sur les enfants. Les sociétés très mobiles ont des valeurs du l'ordre de 0,2, 0,3. C'est évidemment l'Europe du Nord. C'est la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège. Il y a des land of opportunities qui sont le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, dans lesquels on a une grande mobilité. Les États-Unis sont, à l'heure actuelle, parmi les pays développés, celui, avec la Grande-Bretagne, dans lequel la mobilité, en tout cas mesurée comme ça, est la plus faible. Mmh. Cette idée qu'on a. Et alors, ça, c'est très lié, je pense, au capital humain. C'est alors, très lié au fait.
Justement, le capital humain, l'éducation figurant en bonne place dans le programme de campagne de Joe Biden, qu'est-ce qu'il prévoit, Pierre-André Chiappori, et comment entend-il à la fois parvenir à former une élite capable de s'imposer dans la compétition internationale tout en réduisant en même temps les inégalités scolaires?
Je crois que vous avez posé le problème avec de la façon la plus précise. Ce qu'on voit, c'est une augmentation de la rémunération des élites et une stagnation de la rémunération des gens du bas. Le problème, c'est qu'on a besoin des élites. Alors, on a étudié ça de façon très précisément, d'un point de vue démographique et d'un point de vue familial. Vous avez dit au début que ma spécialité, c'est l'économie de la famille. Si on regarde la genèse de ces inégalités, une bonne part se produit en fait très tôt dans la vie. Vous savez, on parle beaucoup en France du fait que les études universitaires ne sont pas gratuites et on suggère que ça pourrait avoir un effet sur la mobilité sociale. Je ne crois pas que ça soit le cas. Dans mon université, les études sont très chères, mais quelqu'un qui viendrait d'un milieu modeste qui ne pourrait pas se payer aurait automatiquement gratuité des inscriptions et une bourse. Le problème, c'est que les inégalités se créent très en amont de ça, au niveau de l'école primaire et en fait même avant l'école primaire. Et c'est là que la famille joue un rôle essentiel. Pour résumer ce qu'on trouve dans nos travaux, on peut craindre une espèce de spirale de l'inégalité dans laquelle les gens les plus éduqués, d'une part, se marient de plus en plus avec des gens plus éduqués. Il y a toujours eu de l'homogamie sur le marché du mariage. On a toujours eu des gens éduqués qui épousaient des gens éduqués. Mais c'est plus le cas, d'après nos travaux surdonnés, qu'il y a 40 ans. Façon plus surprenante, les gens éduqués dépensent beaucoup plus pour l'éducation de leurs enfants, non seulement en argent, ça c'est pas très surprenant, mais aussi en temps. Toutes les statistiques nous disent que les familles à revenus élevés, dans lesquelles le père et la mère ont un haut niveau d'éducation, passent beaucoup plus de temps avec leurs enfants, en particulier dans les activités d'éveil intellectuel, que les familles pauvres, et que les familles aisées ne le faisaient il y a 40 ou 50 ans.
D'où la volonté de Joe Biden d'augmenter les fonds et personnels qui sont destinés justement aux écoles des quartiers les plus défavorisés pour compenser ce que vous êtes en train de décrire, Pierre-André Chiappori. On arrive vraiment à la toute fin de cette émission. Est-ce que vous pourriez nous dire un tout dernier mot sur cet avenir qui attend les États-Unis? Est-ce que Joe Biden, selon vous, va réussir à tourner la page du Trumpisme et ouvrir peut-être une ère plus apaisé pour l'Amérique?
Alors, d'abord, les États-Unis se portent plutôt bien. Regardez la vaccination. Vous avez une société américaine qui est en collaboration avec des chercheurs allemands et une autre société américaine en collaboration avec le National Institute of Health qui ont introduit en moins d'un an, ce que personne ne pensait possible, une méthode de vaccination complètement nouvelle. En termes de qualité d'innovation, non seulement de recherche fondamentale, mais de passage de l'innovation à l'industriel, les Américains restent quand même au sommet. Donc je suis très confiant sur l'avenir à long terme des États-Unis.
Merci beaucoup, Pierre-André Chiappori. Bon. Un grand merci. Malheureusement, on aurait encore eu beaucoup de choses à dire. C'est malheureusement la fin de cette émission. Un grand merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette passionnante discussion. Il est l'heure pour nous de retrouver Xavier Martinet et le journal de l'Écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Premier dilemme pour l'économie politique en cette fin 2020, la régulation des GAFA. Peut-on dompter de tels géants sans les étouffer?
En tout cas, à défaut de les domestiquer, cette année, tous les grands États ont bien décidé de couper les ailes des GAFA, note Philippe Escand dans Le Monde, car après les enquêtes antitrust américaines et les projets de régulation européens, eh bien c'est la Chine qui a rejoint l'offensive la semaine dernière avec une enquête pour suspicion de pratiques monopolistiques contre son propre champion du numérique et géant mondial du commerce en ligne, Alibaba. Consensus international inédit, poursuit Philippe Escand, et en cette fin d'année 2020, effectivement, le vent a tourné et renchéri pour l'AFP, l'économiste Joël Taledano, l'auteur de GAFA, reprenons le pouvoir, jamais autant influent et jamais aussi fortement contesté. Ceux qui pouvaient passer pour de fidèles champions nationaux il y a 10 ans encore sont désormais perçus comme des dragons lâchés hors de l'arène.
C'est le dilemme social du marché des données, comme le titre un documentaire à succès aux États-Unis.
Oui, entre adhésion libre et gratuite des usagers et leur situation de producteur de données captives, voire manipulées, c'est la trahison des GAFA, décrite par Luca Minicini dans Le Monde, ou comment des cool kids et des nerds voulant le bien de l'humanité sont devenus les pionniers d'un capitalisme de surveillance, selon la thèse à succès de l'économiste Shoshana Zuboff, d'ailleurs star de ce documentaire. Et l'enjeu politique préoccupe aussi l'Union européenne qui, dans son Digital Services Act, tente de limiter les contenus illicites ou l'utilisation des données sans consentement. Tout ce qui est interdit dans l'espace public le sera aussi sur Internet, selon la formule du commissaire européen Thierry Breton sur France Inter.
Mais le plus difficile sera de contrôler les pratiques concurrentielles des grandes plateformes.
Ah là oui, car outre les données, c'est le modèle de croissance qui inquiète et irrite les autorités, accords discrets ou forcés avec la concurrence ou acquisition opaque. Or, non seulement ce mode de fonctionnement est quasi systématique pour certains, rien que Facebook a racheté 65 sociétés concurrentes depuis 2004, soulignent dans Le Monde les universitaires belges Charles Cuvelier et Jacques Cuiscater, résumant ainsi la stratégie du réseau social: acquérir, copier ou tuer les concurrents, autrement dit la recette du monopole. Mais en plus, pour limiter cette gloutonnerie, chacun tente d'adapter les règles de concurrence. Prise de court, procédure juridique élargie aux États-Unis, amende et interdiction autoritaire en Chine, estime Philippe Escand, ou tentative de législation européenne. Mais avez-vous déjà essayé de limer les dents d'un grand requin blanc ou de le tenir en laisse, Stéphane ?
Alors pas vraiment, un requin en laisse, Xavier.
Oui, oui, si l'eau ne circule plus assez vite dans ses branchies, le super prédateur s'étouffe et meurt. C'est triste et dommageable pour l'ensemble de l'écosystème marin.
Alors brider les plateformes, c'est prendre le risque de nuire à l'activité numérique globale.
Ah, vous m'avez compris, hein. Des buts des autorités à la concurrence, c'est de garantir une certaine ouverture, atomicité du marché. Mais intervenir directement sur les plateformes, c'est aussi biaiser le marché, explique Jérémy Guest dans The Conversation. De là, trois dilemmes, résume-t-il. Une offensive juridique obsolète face à la nature de l'activité numérique, une régulation qui pourrait peser sur l'efficacité des plateformes et un risque systémique pour les économies américaines et européennes qui briderait leurs géants. Rien qu'Amazon, rappelle ainsi le Wall Street Journal, fait vivre 500 000 fournisseurs aux États-Unis.
Pourtant, certains y voient l'occasion de dynamiser le marché.
Oui, là, c'est l'ambition de la Commission européenne avec son deuxième volet de sa stratégie, le Digital Market Act, qui veut ouvrir la concurrence en fixant 7 obligations nouvelles sur les données ou les profits à ce qu'elle appelle les grands gatekeepers, une dizaine de plateformes non citées mais identifiées par des critères de taille pour mettre fin aux zones de non-droit du marché numérique, dit encore Thierry Breton. Symptôme des lacunes de l'Union dans sa propre économie numérique, se demande Jérémy Guest, ou au contraire, tentative d'organiser la concurrence des 20 prochaines années. En tout cas, au problème des champions incontournables correspond désormais le retour des marchés contestables, idée née aux États-Unis dans les années 80 qui permet de ne pas vraiment imposer l'ouverture mais de rendre l'entrée et la sortie fluide et gratuite. Alors prévenir plutôt que guérir, la Commission veut remettre de l'ordre dans le chaos, dit-elle, mais Paul Valéry l'avait bien dit, deux dangers menacent le monde, l'ordre et le désordre.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'écho. C'était Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée aujourd'hui par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabouin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Félix Levacher, à la technique, Jean-Frédéric. Demain, deuxième épisode de notre série sur les chantiers économiques de Joe Biden. L'économiste Gabriel Zucman sera avec nous pour parler de la refonte de l'impôt. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.